Livre de l'Exode, chapitre 1. Les voies de Dieu envers Israël. Pourquoi Israël était-il en Égypte? Le sujet principal du livre de l'Exode est la rédemption. Nous avons vu en méditant la Genèse que ce fut la conduite des frères de Joseph à l'égard de ce dernier qui amena la famille de Jacob en Égypte. On peut envisager ce fait de deux manières. On peut trouver d'abord dans la conduite d'Israël à l'égard de Dieu un sérieux enseignement, puis dans le déploiement des voies de Dieu envers Israël, une leçon pleine d'encouragement. En premier lieu, donc, pour ce qui regarde la conduite des enfants d'Israël à l'égard de Dieu, il est solennel de suivre jusqu'au bout les résultats de la méchanceté dont ils usèrent envers Joseph, celui en qui l'œil spirituel discerne un type frappant du Seigneur Jésus. Sans égard pour l'angoisse dont son âme est remplie, les fils de Jacob livrent Joseph entre les mains des étrangers. Et quelle est pour eux la conséquence de cet acte? Ils sont conduits en Égypte pour y passer par les profonds exercices de cœur que dépeignent d'une manière si touchante les derniers chapitres de la Genèse. Et ce n'est pas tout. Un long temps d'épreuve est réservé encore à leur postérité dans le pays même où Joseph a trouvé une prison. Comment Dieu accomplit ses desseins? Mais Dieu était dans tout cela, aussi bien que l'homme, et c'est la prérogative de Dieu de tirer le bien du mal. Les frères de Joseph peuvent bien le vendre aux Ismaélites, ceux-ci peuvent le vendre à Potiphar, et Potiphar peut le jeter en prison. Mais l'Éternel est au-dessus de tout, et il accomplit ses grands et merveilleux desseins. Le temps n'était pas encore venu où les héritiers seraient prêts pour l'héritage, et l'héritage pour les héritiers. La postérité d'Abraham devait passer par la dure école du travail des briques en Égypte, en attendant que l'iniquité des Amoréens soit venue à son comble, au milieu des montagnes et des vallées de la terre promise. Vous voyez Genèse 15, verset 16, et Deutéronome 11, verset 11. Tout ceci est intéressant et instructif à un haut degré. Dieu se sert de moyens infiniment variés pour accomplir ses insondables desseins. La femme de Potiphar, le grand échanson du Pharaon, le songe du Pharaon, Pharaon lui-même, la prison, le trône, les fers, le cachet royal, la famine, tout cela est à sa souveraine disposition et il fait tout concourir à l'accomplissement de ses plans merveilleux. L'homme spirituel trouve son plaisir à méditer ces choses. Il aime à parcourir en esprit le vaste domaine de la création et de la providence et à reconnaître partout cet agencement dont le Dieu sage et tout-puissant se sert pour réaliser les desseins de son amour rédempteur. On découvre, il est vrai, maintes traces du serpent, maintes empreintes profondes révélant le passage de l'ennemi de Dieu et de l'homme, nombre de choses que nous ne pouvons ni expliquer ni comprendre. L'innocence qui souffre et la méchanceté qui prospère peuvent donner au raisonnement des incrédules une apparence de vérité. Mais le croyant se repose avec confiance sur la certitude que le juge de toute la terre fera ce qui est juste. Genèse 18, verset 25. Il sait que l'incrédulité aveugle ne peut qu'errer et qu'elle scrute en vain les voies de Dieu. Bénissons Dieu pour la consolation et l'encouragement que nous pouvons puiser dans de telles certitudes. Nous en avons sans cesse besoin, pendant que nous traversons ce monde mauvais dans lequel l'ennemi a introduit un mal et un désordre si effrayants, dans lequel les convoitises et les passions des hommes produisent des fruits si amers, et dans lequel le sentier du croyant est si raboteux que, réduits à nos propres forces, nous ne pourrions jamais nous y maintenir. Mais la foi sait qu'il y a derrière la scène quelqu'un que le monde ne voit pas et dont il ne se soucie pas, et dans cette assurance, elle peut dire avec calme « Tout va bien » et « Tout ira bien ». Les premières lignes du livre de l'Exode nous ont suggéré les pensées qui précèdent. « Mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Ésaïe 46, verset 10. L'ennemi peut résister, mais Dieu se montrera toujours plus fort que lui, et quant à nous, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la simplicité du petit enfant qui se repose avec confiance sur Dieu et ses desseins. L'incrédulité regarde plutôt aux efforts que fait l'ennemi pour contrecarrer les plans de Dieu qu'à la puissance de Dieu pour les accomplir. La foi porte ses regards sur la puissance de Dieu. Elle remporte ainsi la victoire et jouit d'une paix constante. Elle a affaire à Dieu et à sa fidélité. Elle ne s'appuie pas sur le sable mouvant des choses humaines, mais sur le roc immuable de la parole éternelle de Dieu. Cette parole est le sûr asile de la foi, quoi qu'il arrive. Le croyant peut demeurer dans ce sanctuaire de la force. Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération-là. Mais qu'importe, la mort porterait-elle atteinte au conseil du Dieu vivant? Non, assurément. Dieu n'attendait que le moment fixé, le temps convenable, pour faire servir à l'accomplissement de ses desseins les influences les plus hostiles. Les efforts du Pharaon pour écraser Israël. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre nous, et ne monte hors du pays. » Versets 8 à 10. C'est le raisonnement d'un cœur qui n'a pas appris à faire entrer Dieu dans ses calculs. Un cœur irrégénéré ne peut pas tenir compte de Dieu. En dehors de lui, ses plans et ses calculs peuvent paraître fort sages. Mais dès que Dieu est introduit sur la scène, leur complète folie est manifestée. Le Pharaon pouvait juger exactement les diverses éventualités des affaires humaines, l'accroissement du peuple, le risque d'une guerre, la possibilité que les Israélites se joignent à l'ennemi, leur fuite du pays. Il pouvait avec clairvoyance mettre toutes ces circonstances dans la balance, mais il ne lui est jamais venu un instant la pensée que Dieu pouvait avoir quelque chose à faire dans tout cela. Cette seule pensée, si elle était montée dans son cœur, aurait renversé tous ses raisonnements et montré la folie de tous ses plans. On peut bien dire qu'il était dans une grande erreur, ne connaissant pas Dieu, ni ses conseils immuables. Voir Marc 12, versets 24 à 27. Il ignorait que depuis des siècles, la parole et le serment de Dieu, ces deux choses immuables, avait assuré la délivrance complète et glorieuse de ce peuple que lui, Pharaon, se proposait d'écraser. Pharaon ne connaissait rien de tout cela. Toutes ses pensées et tous ses plans reposaient sur l'ignorance de cette grande vérité, fondement de tout, savoir que Dieu est. Il s'imaginait follement que, par sa sagesse et son pouvoir, il pourrait empêcher l'accroissement de ce peuple, alors que Dieu avait dit à son sujet, « Je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Genèse 22, verset 17. C'est pourquoi tous ses plans et toute sa sagesse n'étaient que folie. L'erreur la plus grande dans laquelle un homme puisse tomber, c'est agir sans tenir compte de Dieu. Tôt ou tard, la pensée de Dieu s'imposera, et alors tous ses plans et tous ses calculs seront anéantis. Ce que l'homme entreprend indépendamment de Dieu peut durer tout au plus pendant le temps présent. Ce qui n'est qu'humain, quelque solide et attrayant que cela puisse être, est destiné à devenir la proie de la mort et à tomber en poussière. Toute la gloire et toute l'excellence de l'homme seront ensevelies sous les mottes de la vallée. Job 21, verset 33. L'homme porte sur son front le cachet de la mort, et tous ses projets s'évanouissent, car ils ne sont que passagers. En revanche, tout ce qui se rapporte à Dieu et repose sur lui demeure à jamais. Son nom sera pour toujours. Son nom se perpétuera devant le soleil. Psaume 72, verset 17. Quelle n'est donc pas la folie du faible mortel qui s'élève contre le Dieu éternel? Le monarque de l'Égypte aurait tout aussi bien pu tenter d'arrêter de sa main le mouvement des eaux de la mer que de vouloir empêcher l'accroissement de ce peuple, objet des desseins éternels de Dieu. Aussi, lors même qu'il établit sur le peuple des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau, verset 11, selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, verset 12. Il en sera toujours ainsi. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera, psaume 2, verset 4. Une confusion éternelle reposera sur toute l'opposition des hommes et des démons. Cette assurance met le cœur en repos dans un monde où tout apparaît si contraire à Dieu et à la foi. Si nous n'avions la ferme confiance que Dieu accomplira ses desseins, en dépit de toutes les machinations de l'homme, nous serions souvent abattus en présence des circonstances et des influences au milieu desquelles nous nous trouvons dans ce monde. Mais, que Dieu en soit béni, nos regards ne sont pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car celles qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Avec cette certitude, nous pouvons bien dire « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. » Psaume 37, verset 7. Comme la vérité de ces paroles se manifeste clairement dans le récit qui nous occupe. Si Israël regardait aux choses qui se voient, que voyait-il ? La colère du Pharaon et de ses commissaires, un service rigoureux, une rude servitude, du mortier et des briques. Mais les choses qui ne se voient pas, qu'étaient-elles ? Le dessein éternel de Dieu, sa promesse infaillible, l'aurore prochaine d'un jour de délivrance. Merveilleux contraste. La foi seule pouvait le saisir, comme aussi ce n'est que par la foi qu'un pauvre Israélite opprimé pouvait détourner ses regards de la fournaise de l'Égypte pour les fixer sur les vertes campagnes et les riches vignobles de la terre de Canaan. La foi seule était capable de reconnaître, dans ces esclaves opprimés et asservis au rude travail des fours à briques de l'Égypte, les objets de l'intérêt et de la faveur spéciale de Dieu. Comme il en était alors, ainsi en est-il maintenant. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 1 Jean 3, verset 2. Nous sommes ici, présents dans le corps, absents du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 6. Si, de fait, nous sommes en Égypte, toutefois en esprit, nous sommes dans la Canaan céleste. La foi place le cœur dans la puissance des choses célestes et invisibles, le rendant ainsi capable de s'élever au-dessus de tout ce qui est d'ici-bas, où règnent les ténèbres de la mort. Que n'avons-nous par la foi, cette vision des choses ? Elle relève l'âme abattue et communique à l'homme nouveau la force qu'il lui faut pour avancer dans sa course vers le ciel. Les derniers versets de ce chapitre nous fournissent une édifiante leçon dans la conduite de Shiphra et de Pua, femmes qui craignaient Dieu. Bravant la colère du roi, ces deux femmes ne voulurent pas faire ce que le Pharaon avait ordonné, et Dieu leur fit des maisons. « Ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me méprisent seront en petite estime. » 1 Samuel 2, verset 30. Puissions-nous nous en souvenir toujours et agir pour Dieu en toutes circonstances.